Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Billy Yvon Lutumba à la présentation.
Après la marche convoquée hier samedi par l'opposition, place aujourd'hui aux réactions de ce qu'a été la répression de la police que d'aucuns jugent d'inapproprié et de contraire aux droits fondamentaux des citoyens. Plus assez des détails en ouverture de ce journal. À suivre aussi ce condensé de la mission d'inspection et d'évaluation sécuritaire effectuée par le commandant des opérations Sokola 1 dans le Nord Kivu, notamment dans les localités de la chefferie de Bachou et Sud, qui comprend la ville de Butembo, Mangoré, Jipa et le territoire de Lubero. L'ambassadeur du Japon, Hiro Minami, va intervenir en fin de ce journal comme invité pour parler du soutien que son pays apporte au gouvernement provincial du Tanganyika pour la mise sur pied d'une police de proximité. Les autres contours de l'actualité congolaise, c'est tout de suite dans votre journal de midi sur Radio Okapi. Amis à l'écoute, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. La répression par la police de la marche de l'opposition hier samedi à Kinshasa a suscité plusieurs réactions. Le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, s'est dit choqué par les violences policières, y compris sur les enfants sans défense et le climat de répression à cette marche de l'opposition. Un État qui dénie à ses citoyens ses libertés fondamentales à la veille d'élections générales risque une dérive dictatoriale. Nous appelons à des poursuites et sanctions contre les agents de la police qui ont commis des exactions et exhortons les autorités à garantir des libertés fondamentales des citoyens à se réunir, s'exprimer et à manifester pacifiquement, qui sont cruciales dans une société démocratique, a-t-il indiqué. Pour sa part, l'Institut des recherches en droits humains basé à Lubumbashi condamne fermement cette barbarie contre les manifestants pacifiques. D'autres réactions avec vous, Alain Irung.
Maître Timothée Mbouya de Justicia Asbel, basé également à Lubumbashi, dans un communiqué considère que l'utilisation de la police et des armes réelles sur des manifestants pacifiques constitue un recul inacceptable de la démocratie et de l'état de droit prôné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. L'ONG AKH demande aux autorités politico-administratives de ne plus autoriser l'organisation simultanée de plusieurs manifestations ou réunions politiques publiques, ce pour prévenir des affrontements prévisibles entre des groupes politiques antagonistes, comme cela a été le cas ce 20 mai 2023 à Kinshasa, sur l'avenue Kianza, entre les manifestants de l'opposition et ceux de la Ligue des jeunes de l'UDPS, dit Maître Georges Kapiamba. Moïse Nyarugabo a écrit sur son compte Twitter, je cite, « À la fin de cette journée du 20 mai 2023, cette pensée m'est revenue et j'ai décidé de vous la partager. Quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limite, et j'ajoute, sans limite, il n'y a plus de mesure. Ainsi, le sens de la mesure et le bon sens disparaissent. » Fin de citation.
Par ailleurs, Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS parti au pouvoir, a dit sur son compte Twitter être la personne la plus heureuse pour la réussite totale de la marche plutôt organisée par la Ligue des jeunes de son parti en soutien aux institutions de la République. Cela prouve que l'UDPS reste la première force politique la plus mobilisatrice, contrairement à ceux qui pensent qu'il a tué le parti. Notons que cette marche de l'UDPS s'est passée dans le calme. Pour commémorer le 10 décembre prochain les 75 ans d'existence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont décidé de lancer une campagne annuelle dénommée Initiative 75. Cette cérémonie officielle du lancement a eu lieu à Kinshasa le vendredi 19 mai à la place des évolués dans la commune de la Gombe via le bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, RDC, avec le bureau de terrain de Kinshasa. L'objectif est de sensibiliser toutes les parties prenantes en vue de susciter des engagements dans un large spectre de la société pour générer des changements en faveur des droits de l'homme en RDC. Jeff Opela était présent.
C'était devant les autorités militaires, la police nationale congolaise, la société civile et la communauté estudiantine, le BCNUDH a lancé l'initiative 75, qui est une campagne annuelle qui mettra à l'honneur la Déclaration universelle des droits de l'homme, un accent particulier sur son héritage, sa pertinence et les militantismes qu'elle inspire à travers le slogan « Dignité, liberté et justice pour tous ». Les trois objectifs principaux axés sur l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme, l'état des lieux et bilan de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, ainsi que le renforcement de l'écosystème des droits de l'homme, ont été la base du lancement fait par
Salut Diallo,
coordonnateur du bureau des terrains du BCNUDH Kinshasa.
L'initiative 3 juin 75 sera célébrée en RDC autour de trois principaux objectifs axés sur l'universalité, le progrès et l'engagement de promouvoir l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme. Je vous exhorte au plein engagement à cette campagne pour valoir les droits humains en conscientisant le public en général et le secteur d'intervention de chacun de vous en particulier, afin de positiver et de renverser la tendance des violations des droits de l'homme à Kinshasa.
Pour sa part, le bourgmestre de la commune de la Gombe,
Léopold Manzambi Zola,
souhaite bon vent à cette campagne et appelle ses administrés à s'y impliquer. Retenez que la dite campagne aura plusieurs activités, aussi bien au plan international qu'à l'échelle nationale des États.
À Nitouri, environ 500 élèves du complexe scolaire Léopold-Ville-de-Bougnan sensibilisés sur les questions relatives à l'exploitation et les abus sexuels. Initiée par la section conduite et discipline de la MONUSCO à Nitouri, cette session a permis d'expliquer aux jeunes quelle est la marche à suivre en cas d'abus de cette nature par un agent de la MONUSCO. Le but étant de mieux les protéger. Ézéchiel Mouzali a pris part à cette formation, voici son reportage.
Ils ont entre 15 et 18 ans. Ces jeunes, dont la plupart sont des filles, ont été sensibilisés sur des concepts abus et exploitation sexuelle. Des actes dont certains agents de la MONUSCO ou du système des Nations Unies se rendent quelquefois coupables. Pour certains élèves qui ont pris part à cet échange, l'exercice était très important.
On était dans l'ignorance, on ne savait pas qu'on avait un abus et exploitation sexuelle. Et on va pratiquer tout ce qu'ils vont de nous dire.
Quand on est des mineurs, en voyant seulement l'argent, on peut accepter d'être violé à cause de ce genre de choses. Maintenant, à cause de cette sensibilisation, je suis très contente.
La responsable de l'ONG Promotion de la Femme pour la Reconstruction de l'Ituri appelle ses jeunes élèves à être conscients de leur avenir. Marie Kabazaïre.
Il y a plusieurs agences de la MONUSCO. Certains enfants n'ont pas une notion par rapport aux abus et exploitations sexuelles. Il ne faut pas qu'ils soient trompés à travers les monnaies, à travers les matériels. Ils doivent garder leur dignité afin qu'ils puissent gagner la vie.
Au cours de cette formation, un numéro vert a été distribué à tous les participants pour dénoncer des cas d'abus sexuels commis par des agents de la MONUSCO. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans le Haut-Katanga, coup d'envoi vendredi à Lubumbashi des activités de la stratégie urbaine d'appui à la sortie des enfants dans la rue. Ces activités bénéficient du soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, bureau de Lubumbashi. Il est question de débarrasser la rue de ces enfants qui sont exposés à de nombreux méfaits qui freinent leur épanouissement. Pour y parvenir, la division des affaires sociales et celle du genre, famille et enfants, sont aussi mises à contribution avec l'accompagnement de la mairie de Lubumbashi. D'autres détails avec Jean Ando.
D'après Atou Faye, représentante de la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi, ses enfants rencontrent des difficultés pour accéder aux services sociaux, dont les soins de santé, l'accompagnement psychosocial, l'accompagnement judiciaire, l'éducation, l'alimentation et autres. Et parmi eux, on compte aussi des filles mères et des victimes des violences sexuelles et des violences basées sur le genre. La place des enfants n'est pas dans la rue, mais en famille et à l'école, a-t-elle martelé. Pour la maire adjointe de Lubumbashi, Joyce Tunda, ce sont plus de 2500 enfants qui ont été enregistrés dans les rues de Lubumbashi. Leur présence a des implications sécuritaires et humanitaires. Sécuritaires parce que certains sont associés d'une manière ou d'une autre à des actes de criminalité. Humanitaires parce que ce sont des êtres humains qui ont droit à un regard responsable des autorités pour leur protection. Voilà pourquoi la ville de Lubumbashi a engagé une réflexion avec d'autres acteurs pour mettre en place une stratégie urbaine de protection. C'est entre autres le placement social, la recherche et la réinsertion familiale. Il y aura également un appui à la réinsertion sociale et socio-professionnel. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité dans la partie est de la RDC, le commandant des opérations Sokola Ingrand Nord a fini samedi sa tournée dans deux axes sous sa responsabilité. Il s'agit des axes centres régorgeant les localités de la chefferie de Bachou et sud qui comprend la ville de Butembo, Mangorejipa et le territoire de Lubero. L'objectif de cette tournée était de se rendre compte non seulement de la manière dont les militaires travaillent, palper du doigt la réalité du terrain, mais aussi échanger avec les structures de la société civile et les responsables des entités. Cela pour se fixer l'idée sur la situation sécuritaire après différentes opérations militaires menées dans certaines agglomérations comme dans le Mogalika, dans le territoire de Beni. L'armée se dit toujours déterminée pour en finir avec l'insécurité caractérisée d'une part par les rebelles ADF et d'autre part par les miliciens Maïmaï. Ce compte-rendu a été fait lors d'un point de presse tenu samedi à Butembo, comme le dit Guylaine Kassassia.
Lors de cette tournée de 7 jours, les commandants des opérations Sokola en Grand Nord, accompagnés de son état-major, a d'abord visité plusieurs axes de la chefferie de Bachou. C'est sur l'axe centre. Ici, ils ont constaté la persistance des rebelles ZADF malgré les opérations menées ces jours dans la vallée de Mualika. Ces rebelles sont malheureusement soutenus par certains compatriotes de la place qui se réclament d'être des Wazalendo. L'armée met en garde toute personne qui sera complice de ces malfrats, comme cela est le cas dans la cité lacustre de Cavignongué. Capitaine Anthony Mualouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1.
Il faut dire que cette partie de notre zone de responsabilité, il y a encore la présence des terroristes ADF-MTM, malgré que nous avons mené les opérations. Mais ces terroristes sont parfois appuyés par nos propres compatriotes qui se réclament aujourd'hui des Wazalendo. Les gens profitent de la loi sur les réservistes pour semer des confusions. Et là, les commandants secteur opérationnel Sokola 1 étaient catégoriques est très clair. Et nous pensons que c'est lui qui va aller au-delà. L'armée va s'en charger.
Dans l'axe sud, par ailleurs, principalement dans les Loubéraux, l'armée annonce les déploiements dans les prochains jours de militaires dans tous les coins et recoins occupés par les groupes de miliciens Maïmaï qui y sont plus d'une dizaine. Beni Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Un mot concernant l'enseignement dans la province de la Tchopo. L'intersyndicale réunie hier en assemblée générale extraordinaire a suspendu la grève annoncée à partir de ce lundi 22 mai courant. Selon le modérateur de cette structure syndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, cette décision a été prise au niveau national et répercutée en province après que le ministère des tutelles a annoncé la paye complémentaire à partir de ce lundi 22 mai. Gabriel Apama, modérateur de l'intersyndicale de l'EPST dans la Tchopo, l'a affirmé au micro de Jacques Moukonkole.
Conformément au mot d'ordre lancé par l'intersyndicale nationale, demandant à tous les enseignants de ne pas travailler le lundi 22, et étant donné que les mêmes intersyndicales venaient de nous communiquer par audio que le gouvernement a accepté de payer les engagements pris en Bouéla à travers une paie complémentaire ce lundi, c'est ainsi que nous, intersyndicales de la province de la Tchop, avons également demander aux enseignants de continuer avec les cours le lundi parce que l'intersyndicale nationale nous donne la précision que le gouvernement a accepté de payer dès ce lundi. Quand cela ne tienne, si le gouvernement n'arrive pas à payer comme il vient de déclarer à travers l'intersyndicale nationale, nous sommes prêts pour reconvoquer les enseignants afin de décréter la grève avant même la fin de l'année. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement réellement de respecter ses engagements, sinon nous n'allons plus continuer à patienter.
À Goma, une semaine après une opération de déguerpissement du centre foyer social en faveur de la fondation Mama Mobutu au quartier Mourara, des réactions se multiplient. Dans une déclaration parvenue à Radio Kapi, l'association des volontaires du Congo, ASVOCO, parle d'une tentative d'espoliation entretenue par l'état de siège. Les conseillers du gouverneur rejettent en bloc cette accusation et argumentent que le gouverneur militaire Constant Dima a pris des décisions pour sauver le patrimoine immobilier de l'état. Bernard Nyangi.
Le président de l'ASVOCO qualifie cette affaire d'une tentative d'espoliation de cette concession du ministère des Affaires sociales et estime qu'il y a eu confusion entretenue par les autorités dans ce dossier de Finatabou.
Il y a deux parcelles très différentes. La parcelle de foyer social de Mourara, ils avaient acquis en 1952. Pour Mama Mobutu, ils avaient reçu leur parcelle en 1992. Là, on a construit un centre de santé. Mourara laissait la parcelle de foyer social en paix.
Le conseiller du gouverneur en matière juridique soutient que le foyer social a perdu le procès, ce qui signifie que le gouverneur est dessaisi de ce dossier en vertu du principe de séparation des pouvoirs depuis que les deux parties sont en justice. Maître Achille Kalouné.
Le gouverneur, devant les deux revendications, a renvoyé les deux parties devant les cours et tribunaux. Et lorsque le dossier est à ce niveau-là, le gouverneur est dessaisi. Nous pensons que peut-être il y aura des voies de recours par rapport à la décision qui est en train d'être exécutée.
Rappelons que le 15 mai dernier, sur ordre d'un huissier judiciaire, brandissant le jugement de la justice, les murs et portes d'une école et certains bureaux du centre foyer social ont été démolis pour contraindre le déguerpissement du ministère des Affaires sociales de cette concession située au quartier Mourara. Goma, Bernard Dengagi, Radio Kapi.
En plus bref, dans le Kassaï oriental, la reprise du trafic routier depuis vendredi dernier sur la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre la ville de Mbujimayi et Kananga à plus ou moins 20 km de Mbujimayi. D'après le directeur provincial de l'Office des routes, les travaux ont été entrepris pour établir la circulation routière avec le financement du gouvernement provincial. Les véhicules de ceux des gros tonnages, les motocyclettes ainsi que les vélos passent depuis vendredi dernier à cet endroit sans peine. Marcus Okita dit attendre le financement de Foner pour des grands travaux afin de stopper définitivement l'érosion. Rappelons que c'est depuis le week-end dernier que la RN1 axe Mbujimayi-Kananga a été coupée par l'érosion à plus ou moins 20 km de la ville de Mbujimayi. Cette situation avait suspendu momentanément le passage des véhicules et autres engins roulants. Miziki Lolenge Mususu, traduit en français une autre manière de faire de la musique, c'est l'intitulé d'une soirée de gala de la reconnaissance et de la célébration des diversités musicales de la RDC qui aura lieu au salon du Congo Pullman ici à Kinshasa. À l'affiche, plusieurs célébrités de la musique congolaise, toutes générations confondues, dont Lokwa Kanza, Jean Goubal, Jupiter, Barbara Kanam, Marshall Dixon, Sista Beki, Céline Banza et plusieurs autres artistes. Au-delà de son côté festif, cet événement culturel initié par un opérateur culturel, Verbi, et le chanteur Jean Goubal Kalala, s'attelle à assainir le paysage musical congolais en encourageant la production des œuvres musicales qui contribuent à la promotion, je voulais dire, de la culture éthique nationale.
Actualité internationale.
Un grand défilé militaire et civil a lieu dans la capitale camerounaise, Yaoundé, pour célébrer la 51e journée de l'unité nationale qui commémore la fin du fédéralisme et la proclamation de l'État unitaire du Cameroun. Cette journée a pour but de nous rappeler que nous sommes tous une seule nation, un seul peuple, qu'ensemble nous pouvons construire et nous développer, ensemble nous pouvons être heureux, ensemble nous pouvons vivre en paix, déclare Thérèse Tengouma. Cependant, cette célébration de l'unité nationale est aujourd'hui remise en cause par les tendances sécessionnistes dans les régions anglophones du Cameroun et les appels à la haine tribale qui se multiplient dans tout le pays.
L'invité.
L'ambassadeur du Japon en RDC est notre invité. Hiro Minami a participé jeudi à Kalemie au lancement du projet de la mise en œuvre d'une police de proximité dans la province du Tanganyika. Un projet financé par le gouvernement du Japon à travers l'Agence japonaise des coopérations internationales. L'ambassadeur du Japon, Hiro Minami, s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur l'ambassadeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici dans la province du Tanganyika. Dites-nous quel est l'objectif de votre mission.
D'abord, c'est la JICA, notre collègue japonaise, la coopération japonaise de la, l'agence japonaise de la coopération internationale, aussi bien que l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration, qui ont créer ce type de voyage pour moi. Donc, j'ai accepté l'invitation de deux organisations qui a créé ce type de chance pour moi de venir ici pour visiter votre belle province. Voilà.
Et vous faites quoi au juste?
Il y a un certain nombre de projets que j'ai visités. Tout d'abord, aujourd'hui, on a inauguré, on a lancé un projet de police de proximité au Tanganyika. Ce que la JICA avait expérimenté pendant vingtaine d'années, à Kinshasa et autour de Kinshasa. Donc, on a élargi nos projets de la police de proximité jusqu'à Tanganyika.
Hier, vous étiez dans le territoire de Kabalo. Quelle a été votre activité sur place là?
Oui, décidément, hier, j'ai visité Kabalo et l'entourage de Kabalo pour visiter certains projets que les trois organisations onusiennes, c'est-à-dire que le FAO, UNICEF, aussi, ainsi bien que le PAM, a effectué leur projet de résilience. Et c'est-à-dire que coopérer ensemble pour créer la ville résiliente.
Et pourquoi vous avez choisi la province du Tanganyika?
Étant donné que la JICA va créer le projet de la police de proximité ici. Je profite de cette occasion de venir ici pour chercher des projets qui servent au Japon de contribuer encore davantage dans le développement de ce pays. Le Japon est parti en RDC. Peut-être vous pouvez compter l'Agence française de développement, USAID, britannique, comme ça, à côté de la JICA, mais quand même, la JICA est l'une des plus grandes présences en RDC. Voilà.
Et à combien se chiffre l'investissement pour ce projet des polices de proximité ici dans les Tanganyika?
Encore une fois, je vous répète, je ne suis pas expert, je ne peux pas vous expliquer qualitativement, encore une fois. Mais quand même, la présence du Japon est l'un des plus grandes. C'est ce que j'aimerais dire, hein, de toute façon.
Et quel est le niveau de coopération entre la RDC et le Japon?
Moi, je pense que je ne peux pas qualitativement, je ne peux pas vous expliquer qualitativement. Quand même, à première vue, la présence du Japon est extrêmement grande dans le domaine du développement de RDC. Peut-être numéro un, numéro deux, je ne sais pas. Mais toujours, c'est la JICA, c'est l'ambassade du Japon. C'est-à-dire qu'il n'y a que la coopération concessionnaire. Il n'y a pas de concession non concessionnaire. C'est-à-dire que les entreprises japonaises qui sont filles à la RDC, ils ne sont pas revenus. Jamais. C'est ça que le grand problème du Japon. La JICA a fait beaucoup de choses. L'ambassade a financé dans beaucoup de projets. Mais on sait que les entreprises japonaises, surtout de grands noms, reviennent un jour ou l'autre. Voilà.
Donc jusqu'à présent, il n'y a pas d'entreprise japonaise en RDC.
De part et d'autre, il manque d'efforts. C'est-à-dire que du côté japonais, la visibilité des entreprises privées et côté congolaise, ils n'ont pas préparé l'amélioration du climat des affaires. Voilà.
Et quel est le niveau d'investissement du Japon en RDC?
Ce que j'aimerais dire, de toute façon, les entreprises japonaises utilisaient les entreprises bien établies comme les CFAO à 100% financées par Toyota et d'autres sociétés, grand nombre, financent les projets de les sociétés bien établies déjà à Kinshasa, Matadi, partout en RDC. Voilà. Mais quand même, ils ne sont pas encore à créer un quartier général à Kinshasa, soit Kinshasa, à Lubumbashi. Ce qu'ils avaient avant 2000.
Monsieur l'ambassadeur, merci.
Voilà, merci.
Fidèles auditeurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.